Nous allons donc maintenant parler des films que vous pouvez voir ou que vous avez pu voir en janvier, février, voire en mars prochain, vu que ce sont les films qui sont sortis en salle. D'abord, on va se concentrer sur le cinéma asiatique, et puis après, on va avoir quelques digressions hors asiatique. On va revenir un peu en arrière, jusqu'au 27 janvier de cette année, où est sorti en salle Mysterious Object at Noon, qui est le premier film d'Api Chapung, voilà, c'est cool. Et donc, en fait, on va revenir vraiment en arrière, puisqu'il s'agit d'une sortie, de la première sortie française, du premier film du réalisateur qui date de 2000. Samir, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette ressortie ou de cette sortie?
Oui, alors, donc c'est son premier film, enfin, c'est son premier long métrage, parce qu'il avait fait d'autres, il avait fait des courts métrages expérimentaux. Et c'est intéressant, ce film est très intéressant, dans, même pour ceux ou celles qui ne connaissent pas Happy Chapman ou Versatile Cool, qui n'ont pas vu ces, enfin, les films que nous connaissons, Tropical Malady, Uncle Bunmi, etc. Parce que c'est un film, en le voyant, on a l'impression que c'est une espèce de bande-annonce, une introduction à quelque chose. On sent que ce film, enfin on sent dans ce film des pistes que propose ou que tente le réalisateur, qu'il ne développe pas, mais qu'il laisse comme ça installer. Il installe un décor, il installe plusieurs décors narratifs, plusieurs décors de mise en scène, et il essaie comme ça de travailler sur ces pistes-là. Et le film ne clôture pas toutes ces pistes-là. C'est-à-dire que c'est un film qui annonce quelque chose qui va se créer. Mais ce que j'ai retrouvé, enfin ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce film-là, c'est cette capacité du cinéaste à travailler sur la parole. Et c'est ça qui me plaît. C'est à l'époque, bon, en 2000, mais c'est quelque chose qui a toujours existé depuis que le cinéma est le cinéma, c'est quelque chose qui existe et qui existera toujours, à savoir comment enregistrer une histoire, et qui plus est, comment enregistrer quelqu'un qui va raconter une histoire, qu'elle soit fausse ou réelle.
Est-ce que tu peux nous resituer juste le principe du film?
Alors, c'est un peu, enfin, c'est tellement, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est un film qui démarre comme une espèce de documentaire et qui à un moment va un petit peu solliciter la fiction et en gros on comprend que on comprend qu'il y a une équipe et qui demande à des personnes de raconter des histoires, qu'elles soient réelles ou fausses. Puis il y a d'autres histoires qui s'imbriquent, il y a une espèce de nœud fictionnel qui commence à... Enfin, c'est un peu compliqué de raconter ce genre de film. Mais c'est... Vas-y.
La base,
alors,
c'est quand même...
Kéfren va reprendre la suite de ta présentation et inventer une autre piste narrative.
Il faut vraiment demander à Jérémy qui a écrit la critique.
Je vais juste rajouter que la base du film, c'est le principe du cadavre exquis.
Oui.
Ah oui, ça nous aide pas tellement, en fait.
Alors, le cadavre exquis, c'est un principe surréaliste qui demandait à un auteur... Non, mais ça peut être bien d'expliquer pour les gens.
Merci, Victor. je me sens un peu cruche.
Il y avait un auteur qui commençait une histoire et un autre auteur continuait l'histoire.
Voilà, c'est ça.
Et c'est vrai que le film d'Api Chapung Versatile Cool continue en fait cette tradition avec des gens de la Thaïlande, donc du début des années 2000, de la fin des années 90. Ils commencent... en suivant, je crois que c'est une vendeuse de fruits,
oui.
Qui est une vendeuse itinérante, et il lui demande de raconter une histoire, qu'elle soit vraie ou fausse. Elle commence par une histoire très personnelle, et ensuite, elle a cette interrogation, mais qu'elle soit vraie ou fausse, pourquoi? Et il dit finalement, ça a peu de différence, et elle commence à inventer une histoire. Il enregistre ce récit, et il le met en scène. Et à partir de ce récit enregistré, il va demander à d'autres personnes auxquelles il a fait écouter ce premier récit d'inventer la suite de l'histoire. Et ensuite, il va mettre en scène, encore une fois, cette histoire qui est racontée sous cette forme de cadavre exquis. Donc on va arriver à une espèce de continuation, voilà. de maelstrom, de patchwork fictionnel, dans lequel Happy Chapung Versatile Cool va être obligé de suivre toutes les interrogations, toutes les pistes narratives qui sont expliquées par des gens. Et moi, ce que j'ai adoré dans le film, c'est un peu ce que tu disais, Samir, c'est qu'on retrouve énormément de pistes narratives, en fait, qu'on va retrouver de pistes d'idées, qu'on va retrouver dans le cinéma d'Happy Chapung Versatile Cool, voilà, que ce soit les fantômes, que ce soit ce surgissement du merveilleux dans le quotidien le plus trivial, dans, en fait, cette tradition orale de l'histoire qui est racontée par le peuple thaïlandais. Et on se rend compte en voyant ce film, et c'est ça qui est très beau, que tout le cinéma d'Happy Chapman restait cool et qui est critiqué ici en disant c'est extrêmement élitiste, voilà, il faut comprendre l'art contemporain pour pouvoir comprendre le cinéma d'Happy Chapman restait cool. Ça trouve ses racines dans la culture orale de la Thaïlande, dans des contes qui sont racontés d'une mère à sa fille, de gens les plus, enfin voilà, les plus communs. Donc voilà, il y a cette inscription qu'on retrouve dans son cinéma, qui est déjà dans son premier film.
En fait, c'est ça, et je dirais même que c'est peut-être un peu encore beaucoup plus simple que ça, c'est que on a encore du mal à accepter qu'un film puisse nous parler et à accepter de l'écouter ce film, de prendre le temps d'écouter. Et c'est tellement tellement complexe aussi parfois d'écouter des gens nous raconter des histoires dans un film. Et dit comme ça, ça peut paraître anodin, mais en fait ce film c'est ça. C'est que le cinéaste écoute et nous sommes aussi dans cette idée d'écouter. Donc de prendre comme si en fait on était dans un café et qu'on est en train de prendre donc un café ou un verre je ne sais quoi et il y a pas mal de tables autour de nous et on écoute comme ça des bouts d'histoire à droite, à gauche, au centre et avec ces bouts d'histoire on fait un film, on fait quelque chose. Et moi c'est ça qui me plaît dans celui-ci, c'est que le cinéaste travaille beaucoup sur comment aujourd'hui, donc comme je disais, comment on peut enregistrer une parole, comment on peut... Et cette parole-là, qu'elle soit fausse, donc, qu'elle soit imaginée, ou qu'elle soit réelle, bah, en fait, il y a quelque chose qui les relie, c'est le rêve, c'est la notion de rêve. Et quand on connaît ensuite la filmographie d'Happy Chapman, on est vraiment dedans. On sait que c'est quelqu'un qui rêve, qui prend le temps de retranscrire ses rêves. Et donc, on a toujours on a cette impression là de découvrir de multiples rêves, de multiples personnes et je trouve que ça donne en tout cas les clés de la filmographie qui est en train de se faire et c'est vraiment un film assez intéressant et qui devient passionnant en même temps.
Kefrena.
J'aimerais rajouter aussi que justement la construction du film a aussi un côté enfantin justement de jouer, de s'amuser à faire semblant ou à essayer de recréer des histoires. Et justement, le fait qu'il utilise différents types de mise en scène pour exprimer les histoires, par exemple, à un moment, quand il va dans un village, il demande à une troupe de théâtre de rejouer l'histoire, une sorte de village, ou dans un autre endroit, il demande à des enfants d'être les acteurs de la propre histoire qu'il raconte. Et il y a toute cette partie un peu rêveuse, mais qui est justement assez propre à l'enfance et la cour d'enfant justement qui est dans le film. Et justement cela a un sens parce que le film est en deux parties. Et la première partie c'est Mysterious Object, l'histoire justement dont on parle depuis tout à l'heure. Et la deuxième partie c'est At Noon, qui est un petit court-métrage, je pense de 10 minutes, tout comme ça, qui vous montre la récréation d'enfants dans l'école, juste une récréation d'enfants assez poétique, filmée par Happy Chat Pong, et justement, qui montre que son cinéma puise justement tous ses films puissent son essence dans des contes en fait assez enfantins, assez populaires.
Ce sont les enfants qui disent quand même le plus n'importe quoi. Pour le coup, on part dans des histoires d'enlèvement d'aliens, etc. Mais c'est assez marrant et ça se relie assez bien finalement au reste du film, on pourrait croire qu'il y a quelque chose de plus... voilà, quand on demande à des gens de tous les jours de raconter une histoire, bah, ils vont penser quand même qu'une personne réelle est remplacée par un clone maléfique ou ce genre de choses. Et c'est ça que Happy Chapman met en scène. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté très, très touchant aussi dans le film.
Et qu'on retrouvera dans Uncle Boon Me avec cette fameuse rupture où on voit... cet être fantastique qui surgit comme ça, on ne sait où, on est vraiment dans le côté alien. C'est quelqu'un qui a une manière comme ça d'insérer des choses qui peuvent être, grotesques et qui finalement, parce qu'il reste toujours sur cette notion de rêve, sur ces principes-là, ça passe. On a envie. On a envie d'aller voir,
on a envie d'aller avec lui. Enfin, il a donné une interview fleuve au Cahier du cinéma, je crois, en septembre dernier, et il en laissait une carte blanche, et il parle de ses références. Et justement, il y a beaucoup de films d'exploitation ou de série B, etc., dont il puise son cinéma, justement, qui ne sont pas des films que l'on se considère comme noble, etc. Mais que lui, il s'approprie et qu'il constitue son imaginaire, justement.
Oui, c'est intéressant, justement, c'est ce dont je parlais, oui. ce fait qu'il a été beaucoup critiqué. On a parlé un peu avant, hors micro, de sa Palme d'Or, en fait. Et à l'époque, il avait été extrêmement critiqué pour Oncle Bunny.
Moqué,
et c'était moqué parce que c'était un cinéma extrêmement élitiste, et c'est vrai que oui, c'est la personne qui s'intéresse à des films, voilà, des films d'exploitation du cinéma thaïlandais, à du cinéma le plus populaire possible, qui est très proche de ces fictions, donc voilà, très
par exemple, c'est l'un des premiers à avoir commenté Godzilla de Gardner sur Twitter, à donner son avis, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas, et Pichaton, c'est pas quelqu'un d'inaccessible, ni son cinéma d'ailleurs.
Mais c'est marrant, il y a beaucoup d'auteurs comme ça, je fais une parenthèse, mais quelqu'un comme Jason Kew aussi a des références très, voilà, toi qui peux avoir des références très, très populaires, et j'aime bien ces cinéastes qui font un peu fi de cette distinction entre un cinéma qu'on va considérer comme élitiste ou d'auteur, et un cinéma qu'on va considérer comme plus populaire ou indigne, et voilà, il y a ces ponts qui sont faits par...
Un peu à avance, il y avait Jean-Luc Godard qui adorait les films de Norbert Carbonneau, qui est un cinéaste, une espèce de Claude Zidi, une Claude Zidi de luxe, qui faisait des films dans les années 50 et 60, avec des grands comédiens français, des seconds rôles et tout, et quand on voit les films de Norbert Carbonneau et on suit ce qu'a fait Godard, c'est totalement différent. Enfin voilà, donc c'est quelque chose. Ce sont des spectateurs avant tout.
À propos de cinéma populaire, est sorti en France le 10 février. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus le voir, mais peut-être qu'on le verra en vidéo prochainement. Monkey King 2 de Soi Cheong, qui est plus ou moins la suite de Monkey King 1. Et donc, Monkey King 1 qui était impossible à voir en France, et on a eu Monkey King 2 qui est sorti en 3D,
qui avait été projeté attention, Monkey King premier opus était très difficile à voir, mais il a été projeté une fois au festival du cinéma chinois,
d'accord, donc il y a eu 60 spectateurs qui l'ont vu,
voilà, c'est ça, mais quand même il a été projeté une fois.
Amandine, tu as fait une expédition pour aller le voir en salle,
et où tu l'as vu, où
je me souviens même plus le nom.
Non, mais dans quelle ville à peu près?
Je l'ai vu à Pathé, Gaumont-Pathé.
Mais dans quelle ville?
Sur Paris, en fait.
Ah, sur Paris,
mais sur le bord de Paris, quoi. Sur la périphérie. Ouais. Je ne sais plus, mais c'était très mal desservi. C'était au parc de Versailles, non?
C'est pas
bon. Et alors, le film?
Il fait son job, en fait, ni plus ni moins. Enfin, non, mais c'est ça. C'est... Moi, j'y suis allée, j'ai pas vu le 1, pour être honnête. En fait, j'y suis allée, j'avais écrit la news, du coup, je connaissais vite fait l'histoire, mais je savais pas l'imagerie que ça allait être. J'y suis allée. Et au début, vraiment très très décontenancé. Je l'ai vu en 3D en plus. 3D qui est pas désagréable, ça passe.
Mais efficace ou pas? Enfin, utile en tout cas, ou
utile, je n'ai oublié.
Qu'est-ce qui fait grandir son bâton magique
Ouais. Ouais. Et puis il y a des serpents qui nous sautent dessus.
C'est le seul truc dont il se rappelle, quoi.
Non, mais disons, par contre, la 3D est bien faite parce que tu l'oublies ou non. Enfin, moi, il n'y a pas eu le côté où ça me fait mal aux yeux et tout. Ça...
D'accord, mais elle n'est pas forcément. Enfin, la question, c'est de savoir si vraiment, c'est juste une question de savoir si elle est vraiment utile au film.
Je me suis jamais dit,
c'est juste un gadget.
Ouais, non, c'est un gadget un peu quand même, je trouve. Sinon, non, l'imagerie est très jolie, notamment celle de Gong Li, je trouve. Ou. Je l'ai comparé à un film où seul, par exemple, que j'ai pas aimé, par contre, voilà, c'était La Sorcière et le Blanche-Neige et le Chasseur, que j'ai pas aimé, sauf l'imagerie de La Sorcière, en fait.
D'accord.
Que j'ai trouvé très jolie. Là, Gong Li, c'est pareil. Donc, juste, elle a pas trop d'expression faciale, mais elle est... Mais son imagerie, mais son personnage est vraiment, voilà. Mais son personnage est vraiment génial. C'est, pour moi, le gros point fort du film, c'est son personnage. Il y a une sorte de mystique autour d'elle qui est énorme, enfin, on sent que le plus gros du truc est quand même sur son personnage, et c'est très très bien fait. Sinon, c'est une grande aventure
et
épique. Le
roi singe, il est bien.
Il est un peu énervant.
Parce qu'il était moche dans le premier opus.
C'était Donnie Yen dans le premier.
Mais c'est un nouveau.
Ils ont changé une partie du casting pour le deuxième, mais le premier, j'ai pas vu le premier non plus, mais j'ai juste vu la bande-annonce qui était juste ignoble, qui était affreuse, quoi. Notamment le roi singe qui était très très moche.
Il est bien
ça avait
fait.
L'air d'être un peu moins moche pour le deuxième.
Il est bien fait. Franchement, il est bien fait. Après, il y a toujours le côté un peu sympa de c'est pas un héros comme on pensait être. Je veux dire, au début, il est obligé d'aider le moine, en fait. Le seul peut-être souci, c'est qu'on oublie un peu la quête principale du moine au final. Encore une fois, parce que le personnage de Gong Li prend tellement d'importance qu'on est plus à suivre elle ce qu'elle veut au final. Mais sinon, non, les personnages sont sympas. C'est. Non mais c'est un film qui fait son job en fait, ni plus ni moins. C'est pas, je vais pas me dire oh j'ai hâte, j'ai envie de revoir The Monkey King 2 et je vais pas dire que j'ai pas aimé ma séance par exemple. C'est un beau conte, c'est un joli conte.
On parlera notamment de la distribution française, parce que ça c'est aussi intéressant, de Monkey King 2 au prochain podcast sur le cinéma chinois et la manière dont la Chine essaye de conquérir des nouveaux territoires, puisque c'est la Chine qui a voulu faire une sortie mondiale de Monkey King 2. Donc en visant particulièrement les communautés chinoises.
Oui, il y avait beaucoup de Chinois dans la salle.
Oui.
Ils ont tous adoré.
ils ont communiqué principalement dans cette optique. Et c'est une stratégie qui est assez intéressante. Donc on reviendra, il y aura toute une partie avec une stratégie opposée qui est celle de Netflix avec Tigre et Dragon 2 qu'on peut voir actuellement et dont on reviendra aussi, sur lesquels on reviendra le mois prochain. Et donc Monkey King 2, qui est beaucoup plus ciblé sur sa sortie mondiale, mais qui n'est pas inintéressante.
L'histoire, c'est une histoire très très connue en Chine, en fait. C'est un classique là-bas.
Qui est adapté tout le temps.
Voilà, donc pour eux, ça leur parle complètement, c'est leur univers. C'est vrai que si on ne connaît pas un peu nous, des fois, on peut être un peu perdu sur... Faut connaître un minimum le bouddhisme, par exemple, sur certains choses.
C'est l'équivalent des contes de Perrault.
Oui, voilà, c'est ça.
On connaît tous au moins... Dragon Ball qui s'est aussi inspiré de Monkey Journey et donc
dis-moi c'est à Paris à chaque podcast
on lui lance une liste de mots avant les podcasts, il y a toujours Dragon Ball dedans.
C'est pénible
c'est un beau, honnêtement c'est un très beau, c'est un conte, c'est des personnages de conte, donc je peux pas dire qu'ils sont caricaturaux parce que c'est
le cas, voilà. Non mais normal,
voilà, il y a le cochon, voilà, c'est
il y a un... Il y a un film, Le Roi du Racin, d'une adaptation avec Jackie Chan et Jet Li.
Mais Voyage vers l'Ouest, ça a été adapté je sais pas combien de fois en fait.
C'est pas subtil. Je veux dire, le personnage du cochon, c'est un obsédé par les femmes, donc c'est pas subtil. Voilà. Mais c'est.
C'est pas pour Corosso, quoi.
Voilà, mais l'image, voilà, c'est un joli conte à regarder, même pour les enfants, je pense, mais après. C'est pas un film, je vais faire youpi, je vais le revoir. Voilà, c'est sans plus.
Alors, on va passer au chef-d'œuvre du mois.
Dragon Ball.
On parle de The Monkey King et après.
Un jour sans Dong Sang-soo, qui est en salle depuis le 17 février 2016. On en parle depuis octobre dernier. À chaque podcast, on parle de Dragon Ball et on parle de Dong Sang-soo. Voilà, c'est les deux passages obligés. Samir, est-ce que c'est plutôt un Hong Sang-soo avec ou un Hong Sang-soo sans?
Je ne répondrai pas.
Je crois que dans 3 mois, il aura fait tous les jeux de mots possibles.
C'est minable. Là, je n'ai pas envie de trouver, de chercher des mots. J'ai envie de te dire simplement, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Et là, je vois la tête de Madame Muse de Eastasia. Qui est à deux doigts de pleurer.
Je ne l'ai pas vu, mais ça me donne envie de le voir.
J'ai une anecdote. Enfin, faut déjà raconter un peu. Enfin, je sais pas s'il faut.
Ouais, on raconte l'anecdote.
On connaît le film, un jour avec un jour sans.
D'accord. Donc, nos auditeurs et auditrices connaissent le film.
Allez lire si vous l'avez pas lu, allez lire la critique de Sidi qui est que je vais mettre en lien, qui est en lien, donc voilà, vous connaissez le concept, vous connaissez...
Il faut avant tout, pour aller voir ce film, il faut boire beaucoup, donc j'avais bu près de 3 litres de bière, je sais pas pourquoi tu rigoles, mais et donc, et j'étais bien, le film était très bien. Non, l'anecdote c'est que quand la première heure est passée, alors bizarrement, j'étais sur les Champs-Élysées, l'Élysée Lincoln, et il n'y avait, je sais pas pourquoi, écoute, ce jour-là, il y avait que des... sexagénaire, septuagénaire, il n'y avait pas forcément des gens qui avaient à peu près mon âge.
Tu vas au cinéma en journée, toi?
Oui, j'ai de la chance. Et
puis il va voir Hong Sang-soo sur les Champs-Élysées en journée, quoi.
Voilà.
Ça fait beaucoup.
Et donc, un moment comme ça, je connaissais un petit peu le synopsis parce que le dernier podcast, on en avait parlé, et donc je savais un peu de quoi ça retournait. Et quand la première heure est passée, et donc on passe à la deuxième étape du film, qui est en fait la même que nous venons de voir, mais avec des variantes, parfois de grosses variantes. Il y avait une spectatrice qui devait avoir un septuagénaire, quelque chose comme ça, qui à un moment dit à sa voisine, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils se sont trompés, ils ont remis le film ou quoi? Et, Et il a fallu 10 minutes pour que la savonine lui explique que non, en fait, c'était le même film. Et bah, c'est ça, en fait, le film. C'est ça qui est très intéressant. C'est que même quand on sait un peu ce qui va se passer, enfin, quand on connaît un peu le concept du film, et ben, je sais pas comment te dire ça. En fait, c'est comme si tu vois un film, tu le trouves tellement bien, euphorique, tu aimes les personnages et tu te dis, j'aimerais bien les revoir, ces gens-là. Bon, on va les revoir, c'est-à-dire que 2-3 jours après, on va au cinéma. Non, là, tu vas les revoir réellement. Mais tu vas les revoir sous un autre cadre, une autre manière de bouger aussi. Il y aura peut-être une respiration que l'on ne retrouvera pas dans la deuxième partie. Et en fait, on est vraiment dans l'idée même du cinéma qui est de découper au scalpel les faits et gestes des personnages. J'ai rarement vu un cinéaste qui aime à ce point ses personnages. J'ai rarement vu un cinéaste qui respecte avec intelligence ses spectateurs. Et j'ai rarement vu un cinéaste parler de choses simples, mais simples, de manière aussi très simple. Quand on lit quand on voit entre parenthèses, le scénario du film, c'est décor A, décor B, décor C, décor D, et pour chaque décor, des dialogues. Voilà, c'est ça. Ce n'est que ça. Et de temps en temps, il marche dans la rue, mais c'est rare. C'est-à-dire que, voilà, on passe d'un décor à un autre. Il n'y a pas une transition où on les voit se balader ou je ne sais où. Non, on passe d'un décor à un autre. C'est très brutal. Mais c'est fait avec une telle humilité que ça passe. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il te le refait une deuxième fois. Histoire de, eh ben ça passe encore mieux. Et puis il se permet parfois des petites digressions dans une séquence que tu as vue dans la première fois. Et on parlait de cette séquence de, ah puis vous êtes très bon. Enfin, là je ne suis pas dans le côté très réflexif, très théorique, puis ça sert à rien, je pense. Il y a une musicalité que Hong Sang-soo arrive à créer dans ce, qu'il a toujours fait, mais dans celui-là il arrive à créer une musicalité entre deux, trois décors qui est tout simplement euphorique. C'est un film qui réinvente la notion de personnage, qui réinvente la notion narrative, et bizarrement, tu as envie qu'il y ait une troisième histoire aussi. Mais bon, mais c'est vraiment un très très beau film. C'est pas une espèce de parenthèse enchantée, non, c'est vraiment un film très important, je trouve, dans la filmographie de Hong Sang-soo. Et je conseille, je suis, enfin, allez-y, allez le revoir, c'est très très beau.
C'est vrai que je suis tout à fait d'accord, pour moi c'est sur le film, et j'ai eu le temps de rôder un peu mon discours, mais je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit deux ou trois fois. Mais en tout cas, oui, c'est aussi l'aboutissement de plusieurs réflexions qu'il a pu faire sur le cinéma, de ses derniers films qui étaient un peu plus courts, peut-être un peu plus anecdotiques. Et là, il fait vraiment un film qui est plus long parce que il en fait deux en un, ouais, mais qui est aussi qui est un condensé de toutes les réflexions qu'il a pu avoir et de toutes les évolutions de son cinéma sur les 4 ou 5 dernières années. Donc mais, c'est extrêmement intéressant.
Mais cite-moi des cinéastes qui maîtrisent à ce point leur art cinématographique. Il y a Pichatmon ou Versatakul avec le dernier qui
arrive. Il y avait René.
Oui, enfin voilà. Et encore René, enfin il en a. Mais c'est...
Moi, c'est vrai qu'il y a deux noms.
Totale de son art.
Alors là, je vous renvoie au podcast numéro 3 qui est sur Hong Sang-soo avec Sidi et Julien.
Mais je n'y étais pas, donc je n'écoute pas les podcasts.
Ah bah fou. Là, faut
non, mais t'inquiète pas, on en fera un.
Parce qu'il y a 2h30 sur Hong Sang-soo.
Non, c'est un très bon podcast.
C'est deux références qui... voilà, qui reviennent souvent. On parle de Romère. Moi je suis très très sceptique par rapport au cinéma de Romère, parce que c'est uniquement thématique mais culturel, enfin éventuellement thématique mais culturellement très différent.
Puis c'est moins réactionnaire en même temps. Déjà
bon, ça c'est pas enfin, sur Romère,
mais... bah oui, mais c'est moins réactionnaire, mais beaucoup plus beaucoup plus ouvert.
On est beaucoup plus proche du René, et particulièrement dans celui-là on pense beaucoup à Je t'aime. Ouais. Smoking.
Oui, le côté ludique.
Et un autre, alors c'est pas vraiment un réalisateur, mais c'est. Et ça rejoint ce que tu dis sur l'importance des séquences dialoguées dans un lieu précis, c'est Larry Cohen, qui est le scénariste principal de Seinfeld, qui a fait Curb Your Enthusiasm, qui est donc un scénariste de sitcom. Et c'est vrai que la sitcom se passe aussi dans un lieu unique, et qui travaille cette espèce de mal-être social que l'on trouve à répétition dans le cinéma de Hong Sang-soo. Et Larry Cohen a ce même sens aussi du cadre ultra précis qui va mettre un détail qui va revenir hanter un personnage. C'est-à-dire qu'une action dans la première scène d'un épisode de Seinfeld ou de Curb Your Enthusiasm va avoir des conséquences tragiques ou comiques, on va dire en tout cas tragiques pour le personnage, mais va le mettre dans une situation qui est socialement inconfortable dans la suite de l'épisode. Et pour moi, c'est voilà un autre artiste, parce que c'est pas vraiment un cinéaste, Larry Cohen, qui se rapprocherait de Hong Sang-soo. Donc c'est vrai que pour moi, il y a ces deux deux références qu'on retrouve dans son cinéma.
Moi, je viens juste que ça fait plaisir, en fait. Moi, j'avais déjà vu le film en octobre et je suis allé le revoir juste pour le plaisir de voir Hong Sang-soo. Enfin, pas de voir Hong Sang-soo, mais de voir celui-là en particulier, car justement, comme il l'a dit Samir, j'aime bien rester avec les personnages. En fait. Et il y a une séquence où ils sont tous chez une amie qui a une espèce de boutique ou quelque chose comme ça. Et il boit, etc. Et c'est un peu cosy, etc. Et enfin, ça fait plaisir. Enfin, on se sent bien de regarder ça et de voir ça. Et même lorsqu'il a refait cette séquence avec la variation sur le personnage du cinéaste qui fait justement n'importe quoi.
La séquence du bar, enfin, il faudrait revenir là-dessus.
Oui, justement. Et ça fait plaisir. Enfin, on se laisse porter par les personnages et par la musicalité justement du film.
Ça, j'ai parlé de Larry Cohen, en fait, c'est Larry David. Je viens de me rendre compte de mon erreur.
Tu te rends compte à quel point on est bourré, on n'a pas capté.
J'ai eu un franchement sourcil.
Larry David, donc c'est le scénariste de Seinfeld.
Qui a joué dans le film de Woody Allen.
Larry Cohen, c'est aussi un réalisateur, mais ça n'a rien à voir. C'est un réalisateur de série B qui a fait The Stuff, un film avec un dragon.
Ça peut le faire aussi.
Ça n'a rien à voir avec Hong Sang-soo. Mais donc, je voulais parler de Larry David.
Ce sera intéressant ça de vérifier. Après, vous interviewez Larry David, c'est de savoir si le cinéma de Hong Sang-soo l'inspire. Ce sera intéressant. Un entretien très particulier entre ces deux-là. Mais oui, non, mais c'est vraiment. Enfin, je vais répéter, c'est un vrai plaisir ce film. Un vrai plaisir.
Donc, un jour avec.
Ah,
un jour.
Tu resteras sur une note positive, c'est bien.
Un jour sans. On reste sur une note positive. À voir, absolument. Donc, il est sorti le 17 février. Vous pouvez encore le voir en salle, je pense, cette semaine. On va passer au point DVD. Yannick, on en profite, comme tu es là. Je crois que tu as. Un film asiatique, ou en tout cas russe, à nous conseiller, qui est sorti en DTV.
Oui, effectivement, c'est un film qui s'appelle Résistance. C'est donc un film sur la Seconde Guerre mondiale, qui se centre plus particulièrement sur la résistance des forces russes à Sébastopol, mais qui retrace derrière le personnage principal, qui est donc... un sniper féminin qui retrace donc toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vue du côté russe. C'est vraiment un film qui évite le côté patriotique, se rate légèrement si on veut vraiment critiquer sur la fin avec un peu trop de pathos, mais qui réussit à faire une très belle histoire. Le personnage principal est vraiment intéressant, bien mis en avant. Et on a vraiment une histoire dure mais supportable avec quelques scènes de guerre, beaucoup d'horreur. Bon, bien évidemment, les nazis sont très méchants, mais ça, c'est logique.
Comment ça?
C'est pas le cas?
Ben, si, mais disons qu'il faut toujours faire la distinction entre le nazi et le soldat. Le soldat allemand qui était pour la plupart des...
La différence entre le bon nazi et le mauvais nazi. Comment on le sait?
Non, mais le nazi croyait en toutes ces conneries, tandis qu'il y a énormément de soldats qui ont été embarqués dans ces choses-là. Là, le film est exclusivement tourné vers le côté russe. Et c'est vraiment un film que je conseille. C'est vraiment un très beau film.
Bon, bah, très bien. Bon, moi, je pense qu'on en a fini avec la partie asiatique.